Donc, quand vous lisez l'Évangile, ça vous rend, ça vous donne des réponses? Vous vous sentez comme une...
Ça me met du côté de l'amour, ça me met du côté de la générosité, ça me met, ça me fait lutter contre l'égoïsme vital, l'intérêt, etc. Enfin, ça réveille le meilleur en moi. Et je ressens l'appel du meilleur.
Je pense que moi, je vais choisir l'autre question. Je trouve qu'il y a vraiment un lien entre les deux. C'est pour la foi.
Oui.
Parce que j'ai comme l'impression, quand on regarde au Québec, c'est un peu partout comme ça, mais parlons de l'histoire du Québec. Pendant des années ici, en fait, le Québec a été défriché, le Québec a été colonisé par les religieux qui construisaient une église. Et là, les gens arrivaient, puis bon, on défrichait et tout ça. Mais en même temps, l'Église est devenue ici, les gens qui avaient tout le pouvoir, il y avait des dogmes, tu sais, les enfants allaient à l'école avec des religieuses, je veux dire, il y avait, puis les règles étaient sévères, et il n'y avait pas beaucoup de place à la liberté de penser, puis quand les femmes avaient un enfant, mais tout de suite, parce qu'il fallait coloniser, donc on leur demandait, bien, ce serait le temps d'en avoir un autre, et quand les femmes perdaient un enfant pour une fausse couche, fallait aussi. Alors, tu sais, on a entendu, moi, ma grand-mère, Angela, elle me racontait ça, puis c'est, tu sais, elle conseillait pratiquement à ses filles, attendez, tu sais, faites pas ce que j'ai fait, parce que ça aurait pas été, plusieurs femmes n'auraient jamais choisi ce type de vie, puis il y en a beaucoup qui en ont voulu à ces hommes en soutane, oui. Qui arrivaient à... Et c'est pour ça que la religion, on dirait qu'on l'a beaucoup associée longtemps, et pour plusieurs, à des dogmes,
oui.
À une imposition d'une façon de penser.
Mais c'était le cas.
Parce que c'est les porte-paroles de ce livre qu'on appelle la Bible, c'est ce grand livre, les porte-paroles de ce moment-là étaient rigides aussi.
Complètement.
Alors, comment on devrait voir la Bible?
Non, mais vous évoquez quelque chose qui est totalement juste, c'est-à-dire que c'était une église qui n'était pas à la hauteur du christianisme. Et c'était une église qui était une puissance colonisatrice, une puissance impérialiste, et pas du tout ce que doit être pour moi l'église. Et c'est pour ça que j'aime le pape François qui s'est fait élire en disant « je vais rendre l'église aux évangiles, enfin ». C'est-à-dire à la promotion de la notion d'amour avant tout. Donc moi, je pense que c'est cette Église catholique au Canada, elle a fait du mal aux hommes, elle a fait du mal à Dieu, et elle a fait du mal au christianisme. Elle a vraiment tout cassé. Et donc vous êtes ici, vous êtes dans la reconstruction par rapport à ça, et du coup dans une méfiance du religieux, que alors moi je trouve complètement légitime. Moi je viens d'une autre histoire. Puisque en France et en Belgique, c'est tout à fait différent. Il y a une coupure avec l'Église qui s'est faite au cours du 19e siècle, mais vraiment nettement en 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, ces mauvais liens, c'est-à-dire une Église comme pouvoir temporel, ça s'est défait. Et, tandis que vous le viviez à plein.
Oui, oui, il n'y avait pas de séparation
À ce moment-là. Donc, finalement, il y a de nouveau la place pour la foi, pour le problème pur, indépendamment des églises, de la foi. Et moi, j'évoquais la présence de Dieu que j'ai ressentie dans le désert du Sahara. C'était pas du tout une expérience religieuse, c'était une expérience spirituelle. Ce Dieu-là, c'était le Dieu de n'importe quelle religion, ou de toutes. Et c'est ce que je pense.
Mais qu'est-ce qui a changé en une nuit, physiquement,
Ah ben là, se retrouver en face de la présence, de la force, et de saisir sa lumière, sa puissance, et s'y fondre. Et puis, finalement, revenir à soi avec une empreinte indélébile qui est la foi. Et alors, à partir de là, je me suis mis à regarder toutes les religions avec beaucoup d'intérêt, en entrant toujours dans chaque religion par la porte très singulière des mystiques. Et je me suis découvert des frères et des sœurs sur toute la terre, dans toutes les religions, à toutes les époques. Parce que je pense que les religions ne sont que des manières de dire la même chose. Ce cœur mystique, ce cœur de feu. Les religions, en fait, sont des refroidissements du feu. Et parfois, c'est glacial. Tellement il n'y a plus de rapport avec ce qui a fondé tout ça. Et donc, je ne prends pas les religions pour autre chose que des manières de dire, des manières de faire, des manières
d'interprétation.
Oui, des manières d'institutionnaliser, de transformer en rite, en dogme, etc.
Ouais, ouais.
Et alors, la pensée dogmatique, c'est exactement tout ce que je hais.
Parce qu'il y a quelque chose d'autoritaire aussi.
Parce qu'il y a quelque chose d'autoritaire, il y a quelque chose de non philosophique.
Oui, absolument. C'est qu'on n'a pas le droit de réfléchir.
C'est ça.
On doit obéir.
Alors, je ne pense pas du tout ça. Pour moi, effectivement, une vraie culture religieuse, ce n'est pas une culture de l'obéissance, c'est une culture de la critique. Parce que si vous prenez tous ces textes, l'Ancien Testament, le Nouveau et le Coran, mais il y a tout et son contraire. Il y a autant de violence dans l'Ancien Testament que de choses élevées. Dans les évangiles, non, là, ça va mieux. C'est vraiment quatre livres d'anti-violence, mais il y a l'Apocalypse, à la fin, où on retrouve, comme ça, la volonté de meurtre, de sang, etc. Et dans le Coran, vous avez des sourates qui permettent à un homme de devenir hautement spirituel, généreux, etc. Et puis quelques sourates, comme la sourate de la vache, qui vous incitent à tuer tous ceux qui ne sont pas comme vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lire ces livres, c'est faire une discrimination critique. C'est réfléchir en se disant, attends, quel rapport entre ça et ça? Non, ça ne va pas ensemble. Et donc, c'est finalement une formation philosophique. C'est pas l'obéissance. C'est pas répéter. C'est pas réciter. C'est pas dire oui, amen. C'est au contraire.
Ce ne sont pas des réponses, mais des réflexions.
Exactement. Mm-hmm. C'est ça, la vraie culture religieuse.
Important, c'est toute la grande nuance. Parce que longtemps, on n'avait pas besoin de réfléchir.
C'est ça.
Il y avait un dogme, il y avait une réponse qui était là et elle n'était non négociable. Et là, ça m'amène à parler de votre avant-dernier livre, Le défi de Jérusalem. Vous l'avez raconté, cette histoire-là, mais elle est fascinante. Vous êtes quand même la première personne que je rencontre dans ma vie qui n'a pas seulement rencontré le pape en le saluant alors qu'il y avait 5 minutes. Vous avez eu des longues discussions à quelques reprises avec le pape François. Racontez-moi comment c'est arrivé. Parce que ça m'impressionne vraiment. Je trouve ça fascinant. Et d'entendre parler du pape différemment aussi, ça m'interpelle de vous entendre.
Tout commence par un coup de téléphone. Je suis tranquillement chez moi, dans ma maison de campagne, en train d'écrire, bien évidemment. Et puis, mon éditeur italien qui me dit « Le Vatican te cherche ». Je lui dis « Ok, donne mon numéro ». Je pensais que c'était les médias du Vatican, parce que quand mes livres sortent en Italie, en langue italienne, je fais tous les médias, y compris les médias du Vatican. Mais non, c'est un appel tout à fait différent. C'était Lorenzo Fazzini, qui dirige les presses du Vatican, qui me dit « Éric Emmanuel, vous savez, on vous aime beaucoup ici. On aime votre foi et la liberté avec laquelle vous la dites. Et on a un rêve pour vous. On sait que vous n'êtes pas allé en Terre Sainte. On voudrait vous emmener en Terre Sainte, vous ouvrir toutes les portes possibles. Et on souhaiterait que vous reveniez avec un livre qui serait celui de votre voyage en Terre Sainte. » Alors, j'ai tout de suite dit oui au voyage. Et j'ai dit, mais le livre, je ne sais pas. Je ne m'engage pas parce qu'il n'y aura peut-être pas matière. Et puis, un an plus tard, je pars, parce qu'il fallait trouver le temps, je pars pour passer un peu plus d'un mois en Terre Sainte. Alors, Terre Sainte, ça veut dire Cisjordanie, Israël. Et je vis des choses extraordinaires là-bas. Et l'avant-dernier jour, j'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et de nouveau coup de fil, Éric Emmanuel, il vous attend demain. Je dis, qui? On me dit, le pape. Ah!
Là, on ne regarde pas son agenda. On est disponible, non?
Non, justement, je ne pouvais pas. Donc, ça s'est fait deux...
Je ne pouvais pas.
Je devais jouer au théâtre. Monsieur Ibrahim allait faire du courant en plus. Et donc, ça se fait 2 semaines plus tard. Et là, pour la première fois, j'étais un petit enfant. Parce que moi, dans ma vie, grâce au fait que je suis lu et joué dans une cinquantaine de pays, j'ai rencontré des rois, des reines, des présidents, de la République, des premiers ministres, des dictateurs même. Ça ne m'a jamais impressionné parce que le pouvoir ne m'impressionne pas. Mais par contre, l'accomplissement spirituel, ça m'impressionne. Donc ça peut être quelqu'un qui dirige une ONG et qui se dévoue totalement à son ONG. C'est pas forcément lié au religieux. Et lui, je sais que c'est un homme d'accomplissement spirituel. Donc j'arrive au Vatican Alors d'abord, il faut à peu près 1 heure et demie pour arriver de salon en salon, arriver jusqu'à lui. On vous fait attendre d'antichambre en antichambre. Et je voyais ce Vatican luxueux, plein d'œuvres d'art, que lui, il déteste. Parce qu'il n'aime pas... c'était un évêque des pauvres, il n'aime pas le luxe, la pauvreté. La veille du jour où je l'ai vu, il avait donné un repas pour 2500 personnes sans abri sur la place Saint-Pierre. Il avait partagé le repas avec eux, alors qu'il refuse de partager un dîner avec Emmanuel Macron ou Justin Trudeau. C'est quand même cet homme-là.
Il casse une tradition, là.
Voilà. Et puis je le rencontre, et c'est un homme lumineux. Tout à fait lumineux, parce qu'il est habité, véritablement. On voit qu'il y a quelque chose en lui qui est plus fort que son âge, que la souffrance physique, parce on voit qu'il souffre de la hanche, de la jambe, etc. Et il écoute avec autant de profondeur qu'il répond. Il tire le meilleur de vous, et il rebondit en vous élevant encore plus. Donc on a parlé de la foi, il voulait absolument m'entendre sur mon trajet spirituel, il voulait que je lui parle de Jérusalem, de ce que j'avais ressenti à Jérusalem, puis on a parlé après de Blaise Pascal, de Charles de Foucault, des gens qui sont extrêmement importants pour lui comme pour moi. Il me parlait en italien, mais quand même, quand on a parlé de Blaise Pascal, il m'a cité entièrement un texte de Blaise Pascal en français. Et voilà, et puis il me raccompagne, il veut me raccompagner jusqu'à la porte. Moi, je vois son degré de souffrance, je lui dis non, c'est moi. Et il me dit, donc on ne résiste pas à sa gentillesse, hein, donc il se lève, il m'accompagne, et sur le pas de la porte, il me dit, priez pour moi. Là, je me dis, mon italien se barre, je n'ai pas compris, je lui demande de répéter, et il me dit, priez pour moi. Et moi, je suis fils de... Mon père était kinésithérapeute, physiothérapeute. Il passait son temps à soigner les gens. Et donc, j'ai un réflexe. Je regarde sa jambe, je regarde sa hanche, je regarde sa canne. Et il voit que j'interprète ça comme ça. Et il a un grand sourire. Et il me dit non, 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 non. Et il monte la bibliothèque du Vatican, immense, le Vatican derrière, et sans doute toute la chrétienté, en disant la tâche est lourde. Ma charge est pesante. Priez pour moi pour que j'y arrive. Et cette humilité, je trouve que c'est bouleversant. Et puis dessous, il y a un message subliminal qui est de dire « Ta prière, aux yeux de Dieu, elle est aussi importante que la mienne. » Cette égalité absolue. Et donc j'ai redescendu les escaliers du Vatican en me disant « Ouais, Dieu est au travail. Il est là. »
Vous avez l'impression que vous l'avez rencontré?
Ben, j'ai vu quelqu'un qui était porté par une force qui était plus que la sienne.
Et qu'est-ce qu'il a dit de votre livre?
Il a écrit la préface, la postface.
Et ça, je vais vous le dire. Dites-moi la première phrase. Moi, quand j'ai lu le livre, je suis arrivée à la fin et j'ai... Comment il vous interpelle? Je me dis, mais comment on reçoit ça? Je vous laisse le dire, parce que c'est à vous que ça s'adresse.
Mais oui, donc c'était plusieurs mois après. J'avais reçu un coup de téléphone de Lorenzo Fazzini du Vatican qui me dit, est-ce que tu as fini ton livre? Je lui dis, oui, je le rends demain à mon éditeur. Est-ce que tu veux bien me l'envoyer? Je lui dis, oui. Il me dit, est-ce que tu me donnes la permission de le faire lire au pape? C'est une question qu'on m'avait jamais posée. Je lui dis, oui, tu peux le faire lire au pape. Et moi, je savais qu'il revenait d'Afrique, c'est-à-dire un voyage qu'il avait postposé plusieurs fois pour des problèmes de santé. Et donc, il devait être épuisé par ce voyage en Afrique. Et je pensais qu'il avait tout à fait autre chose à faire. Et puis, 4 jours après, Lorenzo Fazzini m'appelle en me disant, il a beaucoup aimé ton livre. Et il est en train de t'écrire. Et puis... Le lendemain, je suis dans la région parisienne, je dois jouer un de mes textes, Madame Pilinska, le secret de Chopin. Je suis en train de me maquiller. Le métier d'excommunié, l'acteur était excommunié par l'Église jusqu'au XVIIIe
siècle. C'est vrai, hein, quand même. Oui, tout à fait.
Donc quoi, l'Église change. Et j'étais en train de me maquiller sur la table. Et tout d'un coup, je reçois un WhatsApp. C'était le pape. Et j'ouvre, et les premières paroles, c'est « Caro ». Éric Emmanuel, caro fratello. Cher Éric Emmanuel, cher frère. J'ai pas pu aller plus loin. Cher frère. Donc là, je me suis dit, bon, on se calme. Il faut jouer. Il faut signer. Après, j'irai au restaurant, je rentrerai à l'hôtel et je lirai. Et en fait, j'ai attendu le lendemain matin. Je me suis réveillé dans mon lit. J'ai lu sa magnifique lettre. Sur le livre et sur Jérusalem et sur ce que ça signifie, sur ce à quoi ça nous engage. C'est une lettre humaniste plus que religieuse. Et donc je ne vous dis pas l'état dans lequel j'étais, donc j'appelle d'abord mes intimes et puis au bout d'un temps, pour frimer, j'appelle mon éditeur. En disant, oh, figure-toi que j'ai reçu une lettre du pape, il a beaucoup aimé le livre. Et lui, évidemment, éditeur, me dit, mais il faut qu'on publie la lettre. Ah, je fais, ah oui, j'avais pas pensé. Et là, je rappelle le Vatican en disant, est-ce que ce serait possible de publier la lettre en postface du livre? Et ils ont dit, mais oui, bien sûr.
Est-ce que c'est la première fois qu'on vous appelait mon frère?
Mais oui. Et vous voyez d'où ça vient? Mais ça, c'est sa force. C'est, il pense que chaque chrétien est un témoin aussi légitime qu'un autre. Il est complètement dans le refus de la hiérarchie. D'ailleurs, il est détesté par toute une partie de la hiérarchie catholique. On le voit bien. Et d'ailleurs, il voudrait aller beaucoup plus vite en termes de réforme, mais il ne veut pas casser l'objet dont il a la charge. Il a la peur du schisme. Très très forte et justifiée malheureusement parce qu'il y a des forces réactionnaires extrêmement fortes dans cette église. Et même sans parler de forces réactionnaires, il y a des gens qui sont par exemple quand il est arrivé au Vatican, il a dit que la plupart des gens faisaient la gueule, ils prenaient des airs sérieux alors qu'ils n'étaient pas du tout des personnes sérieuses. Et il a demandé de pratiquer la diplomatie du sourire. montrer
mais,
de la joie.
Mais quand je vous entends, ça devrait être l'endroit qui est le plus serein, pacifique,
le ouvert. Vatican?
Ben, ça devrait être là, parce que c'est...
Pas du tout.
Alors que c'est pas ça, c'est pas ce que vous décrivez.
Non, ben...
Mais c'est parce que...
Il y a eu des papes empoisonnés, et on craint que celui-ci ne le soit, bien sûr.
Donc, on n'est pas à l'époque médiévale, là. Aujourd'hui, ça pourrait encore arriver.
Mais regardez, qu'est-ce qui n'arrive pas aujourd'hui, qui n'arrivait pas dans le passé, quand on voit des... Quand on voit des Poutines, quand on voit des...
C'est vrai. Hein? On dirait qu'on ne voudrait pas...
Le poison chez Poutine, c'est souvent utilisé. Hein?
On dirait qu'on ne voudrait pas y croire.
Mais c'est ça. Je crois qu'on a eu la naïveté de croire dans les années 90 que c'était la fin de l'histoire. Mm-hmm. Et que, voilà, on allait vers des instances supranationales de plus en plus fortes et qu'on avançait vers un univers de paix. Bien sûr que non.
Par rapport à, ça sera ma dernière question sur la foi, mais si vous avez rencontré avant et maintenant.
Mais vous savez, en fait, tout ce que j'ai écrit, tout ce qui m'a fait connaître a été écrit après. Je sais pas si j'aurais... Parce que ce qui s'est passé dans le désert, c'est que c'est pas seulement la foi que j'ai reçue, j'ai été harmonisé. C'est-à-dire que avant, j'avais la tête qui partait dans un sens, le cœur qui partait là et le corps qui partait ailleurs. J'étais...
Ça a fait.
Ouais. Ça m'a... Ouaf. Hop. Maintenant, chaque phrase que j'écris, par exemple, est une phrase qui a été pensée par ma tête, ressentie dans mon cœur et exprimée dans mon corps, puisque c'est de la musique. Et voilà, je ne suis plus le même.